Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et tout au long de ces vacances, eh bien, on a le plaisir de retrouver Jacques Pessis pour revenir sur ces personnalités qui ont marqué cette année 2020. Bonjour Jacques.
Bonjour Benjamin.
Merci d'être avec nous pour ces vacances. Alors beaucoup de disparitions importantes cette année, des disparitions qui nous ont émus, qui nous ont marqués. Et c'est le cas aujourd'hui puisque vous nous parlez de Juliette Gréco qui nous a quittés le 23 septembre dernier à l'âge de 93 ans.
Oui, Juliette Gréco, c'est 70 ans de carrière, plusieurs vies. D'ailleurs, on a tous en nous, d'une génération à l'autre, quelque chose de Gréco. Alors, elle est née à Montpellier, elle vient à Paris très jeune pour être danseuse à l'opéra, ouais. Et puis il y a la guerre. Ouais. Et pendant la guerre, sa mère, qui est résistante, est arrêtée par la Gestapo et se retrouve dans un camp. Mmh. Et Juliette est toute seule. Alors, au retour de la guerre, elle retrouve sa mère, mais elle se fâche. Ouais. Donc, se retrouve toute seule à Saint-Germain-des-Prés, le quartier à la mode en 1945. Ouais. Elle se fait des copains, parmi lesquels Roger Vadim, qui est un jeune assistant de cinéma. Mmh. Et elle découvre un petit bistrot ouvert tard le soir, qui est le Tabou, rue Dauphine. Ouais. Et là, ça devient vraiment le quartier général. Et un soir, en 1946, à la demande d'un journaliste, elle fait une photo avec Vadim, sans même se demander où elle va passer. Et cette photo est publiée à la une d'un journal qui s'appelle Samedi Soir.
Samedi Soir, oui, c'était un journal, du coup, oui, c'est ça.
C'était l'ancêtre des People, c'était l'ancêtre de France Dimanche et de Voici. Mmh. Et cette photo, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est Roger Vadim qui tient une bougie, qui éclaire Gréco, et ben, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la photo ? Existentialiste. Ouais. Et c'est la première fois que le mot apparaît dans un journal.
D'accord, ouais. Alors, La toute première.
Ensuite, elle rencontre un autre habitué des lieux, Jean-Paul Sartre, et il veut absolument qu'elle chante, parce qu'elle a une voix pour chanter. Elle ne veut pas, elle déteste la chanson.
D'accord.
Et il dit, ok, tu viens chez moi demain à 9h, il habite au-dessus du Flore, je vais te montrer des chansons et tu vas les chanter. Mmh. Et c'est comme ça que Gréco, à 9h du matin, se retrouve chez Sartre, qui lui montre des poèmes de Raymond Queneau. Elle en sélectionne 4 mis en musique par Joseph Cosma. Mmh. Et l'un d'entre eux, c'est « Si tu t'imagines ».
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va.
Alors cette chanson, tout le monde la connaît, c'est le premier succès de Gréco, et ça va au-delà du succès. C'est-à-dire que les adolescentes se maquillent comme Gréco, elle invente ce qu'on appelle l'œil de biche chez les filles.
Bah oui.
Et puis après, elle débute sur scène. Alors, d'abord, il y a La Rose Rouge, qui est un cabaret célèbre à l'époque. Ensuite, il y a Bobino, et à chaque fois, elle a une tenue de scène qui est une grande robe noire qu'elle appelle son armure de scène. Ou son noir de travail, et son succès est grandissant. Elle fait tous les grands musicals, tous les grands théâtres, et elle donne sa chance à des inconnus, parmi lesquels un certain Jacques Brel.
Ah bah oui, comme quoi. Et il faut dire qu'à ce moment-là, sa carrière, elle dépasse largement le cadre national de la France.
Ah bah, Gréco, ça devient l'ambassadrice de la France à l'étranger, le porte-drapeau de la chanson française. Alors elle va chanter en français, je précise, car c'est important, c'est plus le cas aujourd'hui. Dans une dizaine de pays, il y a les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'URSS, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie.
Pour tout le monde.
Voilà. Et alors, à Milan, ce qui est extraordinaire, c'est que la Callas en personne vient la voir dans sa loge en disant « Ne dites rien, mais j'avais un petit magnétophone dans ma poche, j'ai enregistré votre concert. » Et à l'époque, elle est aussi au Japon, où il y a quand même une rue et un café qui portent son nom. Ouais. Et au Japon, la chanson la plus célèbre de Gréco, c'est celle-ci.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre ?
Chanson qu'on connaît tous.
Bah oui,
et puis, elle fait les scènes de musical, de théâtre. Elle a fait quand même un concert avec Brassens au TNP, le théâtre de Jean Villard. Et puis, elle rencontre d'autres stars.
Oui, notamment Serge Gainsbourg, bien sûr.
Bien sûr, un soir, il vient dîner chez elle. Ouais. Ils boivent une coupe de champagne, deux coupes de champagne, trois coupes de champagne. Et ils commencent à danser sur une chanson que Gainsbourg vient d'écrire. Et cette chanson, Juliette Gréco va l'adopter. C'est la Javanaise.
Bah oui.
En dansant la Javanaise, nous aimions le temps d'une chanson.
Et puis vous êtes un peu jeune, Benjamin, mais il y a un feuilleton qui a marqué l'histoire de la télévision, c'est Belphégor. Vous le connaissez ?
Oui, bah oui, de nom, ouais, bien sûr.
En fait, c'est passé en 65, un feuilleton de Claude Barma, et pendant 4 semaines, ça a vidé les salles de cinéma et les théâtres.
Ah oui,
parce
carrément.
Qu'on voulait savoir qui était le fantôme du Louvre, Belphégor. Et tout le monde était au courant, sauf une personne, Juliette Gréco, parce qu'elle était au Japon. Elle est revenue du Japon, et l'aéroport, le douanier lui a dit... Bonjour Belphégor, elle a compris que c'était un succès.
Bon, on a aussi beaucoup parlé de ces histoires d'amour, forcément.
Alors ça a fait les beaux jours des journaux People, qu'on n'appelait pas encore People, mais presse à sensation. En fait, Benjamin, elle s'est mariée 3 fois, Gréco. La première fois avec Philippe Lemaire, qui était un comédien charmant, qui a eu son heure de gloire. La seconde fois, c'était avec Michel Piccoli. Mmh. Ils se sont rencontrés dans un dîner organisé par Télé 7 jours en 66 au château de Versailles. Et ça a été le coup de foudre. Ils ont vécu 15 ans ensemble et ils se sont séparés parce que il travaillait trop. Et puis, il y a eu Gérard Joannès, le pianiste de Brel, qui est devenu l'homme de sa vie, qui est mort d'ailleurs un an avant elle. Ça a été vraiment le grand amour. Mmh. Et puis, il y a eu ceux qu'elle a connus sans se marier, Daryl Zanuck, le grand producteur d'Hollywood, l'a emmené à Hollywood, et il a voulu lui faire tourner des films, mais il était tellement, tellement dur, il voulait tellement la maintenir hors du reste qu'elle a fui.
Elle avait besoin de sa liberté.
Elle avait besoin de sa liberté. Mais l'homme de sa vie, d'ailleurs, elle l'a dit un jour dans Sacrée Soirée, c'était le trompettiste Miles Davis. Mmh. Elle l'a rencontré, elle dit, il adorait me séduire, c'est mon seul véritable amour. Mmh. Et Juliette Gréco, c'est quelqu'un qui adorait séduire. Elle avait un côté femme fatale, d'ailleurs elle l'a chanté, Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite.
Elle prend son temps, effectivement. Bon, il faut dire qu'elle a chanté vraiment jusqu'au bout de sa vie. C'était un besoin vital pour elle.
Que jusqu'à 88-89 ans, elle a fait une tournée, ce qu'elle appelait sa tournée d'adieu. Mmh. Elle a eu un AVC, elle a dû s'arrêter. Et moi, je me souviens l'avoir vue à Narbonne en 2015, sur scène, avec sa grande robe, maquillée. C'était extraordinaire. Elle faisait tout le répertoire, Prévert, Brel, Ferret, Aragon, Trenet, tout y passait, c'était exceptionnel. Et il y avait même des jeunes qui ont écrit pour elle. Abdelmalik, ça a été un de ses derniers auteurs, car elle allait vers les jeunes. Et puis un jour, elle a décidé que c'était fini. Et puis malheureusement, la maladie l'a rattrapée. Et elle a dit, je vais m'isoler maintenant, mais ne parlez surtout pas officiellement de mes adieux. Elle disait, les adieux, c'est le plus beau chantage que je connaisse lorsqu'on veut attirer le public. Elle n'a jamais eu besoin de cela pour s'en sortir et pour devenir l'une des plus grandes.
Eh ben oui, c'est le cas en tout cas. Et merci pour ce bel hommage à Juliette Gréco qui nous a donc quittés en septembre dernier. Merci à vous, Jacques Pessis, et à demain pour une nouvelle personnalité qui a marqué cette année 2020. À demain.
À demain, Benjamin.
Et 9h52, on termine ce grand matin avec vous, bien sûr. Vous nous appelez pour venir nous interpeller à l'antenne 0826-300-300. Et nous sommes au standard avec Stéphane qui nous appelle de Castres. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Benjamin.
Comment allez-vous?
Eh bien, très bien. Il fait beau chez nous.
Bah oui. Ah bah, c'est le principal, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça.
Bon, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie et de quoi voulez-vous nous parler pour terminer ce grand matin?
Voilà, ben moi dans la vie, en fait, je suis régisseur son dans le spectacle vivant, c'est-à-dire tout ce qui est théâtre, événementiel, concert et tout ça. Et j'appelle justement pour pousser un coup de gueule pour le monde de la culture.
Vous trouvez ça injuste qu'on n'ait pas rouvert les salles de spectacle le 15 décembre dernier, comme c'était prévu?
Ben c'est ça, déjà, c'est très injuste, mais quand on voit le regard des grands magasins, des transports en commun et tout ça, Et après, ce qui va être compliqué plus tard, en fait, c'est parce que la reprise, en fait, on n'a toujours pas de date de reprise. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer. Et ce qui va être compliqué, en fait, c'est autant pour nous. Moi, je suis intermittent du spectacle. On est, on va dire, sauvé jusqu'au mois d'août de l'année prochaine.
C'est ça, les indemnités ont été prolongées.
Ça a été prolongé jusque-là, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les boîtes et les structures pour qui on bosse. Moi, je bosse beaucoup, en fait, pour ce qu'on appelle des prestataires de services. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui ont le matériel et qui louent le matériel pour les événements. Et en fait, bon, moi, je suis loué avec le matériel, mais en fait, ces boîtes-là, elles sont à l'arrêt depuis mars dernier. Et si elles mettent la clé sous la porte, il y en a déjà qui ont fermé.
Ça a déjà été le cas,
Ça va être très compliqué pour le métier, parce qu'en fait, on a du matériel qui coûte excessivement cher, et remonter une structure, ça va être très, 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 très compliqué.
Vous avez peur, justement, de la reprise, que justement, les forces en présence soient pas suffisantes pour pouvoir assurer cette reprise, quand on le pourra, des spectacles vivants?
Et j'ai peur, justement, qu'il y ait beaucoup de boîtes qui aient mis la clé sous la porte, et cette reprise risque d'être compliquée par rapport à ça. Parce que voilà, si on a, pareil, nous, rien que pour moi, en fait, je pense déjà à une reconversion. En fait, je sais pas ce que va être l'avenir. Il me manque encore beaucoup d'heures à faire. Alors que normalement, en fait, je fais largement mes heures tous les ans. Là, il me manque beaucoup d'heures. Mais pareil, en France, si on n'a plus d'intermittents, en fait, parce qu'on risque d'être beaucoup à y passer, en fait, on va perdre un savoir-faire énorme en France pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est spectacle et tout ça. En fait, ce sont des métiers extrêmement techniques qui méritent un savoir-faire.
Et ça dont la culture a besoin et dont les spectacles ont besoin aussi.
Complètement, parce que c'est vrai.
Parce que j'imagine que vous pensez éventuellement à partir sur un autre métier, à vous reconvertir, c'est peut-être le cas aussi de beaucoup d'intermittents du spectacle.
Mais j'ai beaucoup de copains autour de moi, ouais, c'est le cas pour beaucoup de monde en fait. Moi c'est pas ce que j'espère continuer dans ce métier-là que j'aime, voilà, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'aime ce métier, c'est pour moi le plus beau, métier du monde. Mais c'est vrai que si on n'a plus d'aide, parce qu'après le 31 août 2021, si on n'a pas les heures, on va tous être au RSA.
Ouais, bien sûr. Il y a quand même des indicateurs un peu positifs. On voit que les dates un peu se multiplient de chanteurs, de sur les one-man shows, à partir de l'automne 2021. 2022 aussi, beaucoup. Ça rassure quand même un petit peu, ça, de se dire on a peut-être le bout du tunnel là, à ce niveau-là, et qu'on va peut-être compenser ou rattraper d'une certaine façon le retard.
Oui, en fait, de toute façon, le retard, on peut considérer en fait les dates qui sont repoussées. C'est pas juste repoussé, c'est-à-dire c'est annulé et c'est une nouvelle date qui se refait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'espoir à l'automne. Mais sauf que si ça repart vraiment qu'à partir de septembre 2021, pour nous intermittents, c'est trop tard. On n'aura pas assez d'heures pour le faire, pour pouvoir rester intermittent et pouvoir continuer à travailler. Si une reprise au printemps, c'est génial. Ça serait bien, mais c'est pas gagné, quoi.
On croise les doigts en tout cas. Et puis on vous souhaite, Stéphane, de bonnes fêtes quand même. Un grand merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour conclure ce grand matin avec vous. Je vous souhaite aussi une bonne journée. Chez Will, grand matin.
Et pour vous aussi.
Et voilà. Merci à vous, Stéphane de Castres. C'est un bonheur de vous avoir pour conclure ce grand matin. 0826 300 300. Vous savez, vous êtes chez vous, à l'antenne. Nous, on revient avec le grand matin demain en compagnie de Laurence Garcia et de Grâce Leplat à partir de 6h. Très, très belle journée avec Sud Radio. Un grand merci à Pierre-Yves, notre réalisateur. Dans un instant, après les infos, vous retrouverez Valérie Expert et Gilles Gansman pour l'émission Média. C'est Muriel Robin qui sera leur invité à ne pas manquer donc pour son tout premier téléfilm. À demain les amis.